Dernière semaine, on va rester, on va être au chapitre 1 aujourd'hui. Et si vous n'étiez pas avec nous donc ces dernières semaines, on est dans une série en train de regarder. Comment le royaume de Dieu est et comment Dieu en fait a pourvu à un médiateur entre lui qui est Dieu, qui est tout autre, et nous qui sommes son peuple. Comment est-ce qu'on accède à Dieu? Comment est-ce qu'on est en relation avec Dieu? Pas juste par nos propres mérites ou par nos propres forces, mais parce que Dieu a institué un médiateur, un messie, quelqu'un qui a été choisi et oint pour cette fonction-là entre nous et Dieu. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas trop de mystère. Désolé si vous attendiez à du suspense. On est en train de parler de Jésus. Il est désigné par Dieu comme l'unique médiateur. Il n'y en a pas d'autre entre Dieu et les hommes, entre Dieu et nous. Donc très concrètement, ça nous concerne. Parce que c'est notre vie. C'est la manière dont on peut être dans ce monde et avec Dieu. Et ce médiateur, on l'a déjà vu, c'est un vrai homme. Jésus était véritablement homme, dans le sens plein du mot homme. Et puis, en même temps, il est vraiment Dieu, vrai Dieu, dans le sens entier du mot Dieu, de la divinité. Et la Bible nous présente trois missions, trois services, si vous voulez, trois façons dont Christ est notre médiateur. Et donc, ça fait l'objet de nos réflexions les dernières semaines. En tant que prophète, alors c'est le porte-parole par excellence de Dieu, parce qu'il est la parole même de Dieu, en fait. Il est l'expression même de la réalité de Dieu. Donc quand on a Jésus-Christ, c'est encore mieux que les prophètes, c'est encore mieux que Moïse, le prophète choisi par Dieu, parce qu'on a Dieu lui-même qui nous parle. Et non seulement qui nous parle de façon comme extérieure à nous, mais par son esprit, capable de rendre cette parole vivante et agissante dans notre cœur. Ça, c'est l'office prophétique de Jésus. Donc l'application assez directe qu'on avait vue, c'est qu'il nous faut écouter, alors. Et obéir et chercher à dépendre de cette parole et vivre de cette vie qui vient par cette parole. Il y a 15 jours, on avait vu Jésus comme grand prêtre choisi par Dieu, qui a accompli en notre faveur toutes les conditions objectives requises par Dieu pour être dans l'assurance du pardon de Dieu. On peut être certain que nos fautes ont été effacées, on peut être certain d'être réconcilié avec Dieu, en bonne relation avec Dieu maintenant. Et ce n'est pas de nouveau parce que nous, on avait quelque chose voilà, qui attirait le regard de Dieu sur nous, mais c'est parce que Dieu a choisi ce médiateur, Jésus comme grand prêtre qui a officié pour nous. Il s'est offert lui-même en sacrifice parfait à notre place. Et l'application qu'on avait vue, c'est qu'il n'y a pas d'autre espoir de salut alors en dehors de Christ. Et si on met notre foi en Jésus, on est pour toujours en communion avec Dieu. Jamais seul, jamais livré à nous-mêmes avec notre culpabilité, mais sûr d'être réconcilié avec Dieu. Aujourd'hui, on va regarder à Christ, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes dans sa fonction de roi. Je ne sais pas quelles idées vous avez des rois, on a plutôt des idées assez glorieuses, n'est-ce pas? Alors, on a des Britanniques avec nous ce matin, the Queen of England, donc à Buckingham Palace, vous voyez les gardes royaux, vous voyez tous les bijoux de la couronne gardés dans le tour de Londres, voilà, vous avez une idée d'un trône, du rouge et du prestige qu'il y a sur cette fonction de roi. Hein. Nous, on a un peu perdu ça, quoique, peut-être certains diront, mais en tout cas, on imagine bien un roi, c'est quelqu'un de très important. Et en même temps, je me suis dit, tiens, mais je vais faire une petite recherche rapide sur des anecdotes de rois, parce que finalement, ces rois-là, ils ne sont que humains, contrairement à Jésus. Et la reine d'Angleterre, toute prestigieuse et toute pleine d'honneur et de dignité, qui est normale qu'elle ait, de sa descendance, dans un sens, elle n'est qu'une femme, comme nous. Et j'ai trouvé cette anecdote, dramatico-comique, quoi. Charles VIII, un roi de France, est-ce que vous savez comment il est mort? Il se rendait à un match de jeu de pommes, donc c'est l'ancêtre du tennis, et il s'est cogné la tête à un linteau en pierre. Tout roi qu'il était, il n'a pas pu échapper à la mort d'une façon un peu bête, apparemment, comme se cogner la tête sur un linteau de pierre, il n'a pas fait attention en passant la porte. Alors, c'est super, les rois avec tout le prestige et la gloire qu'ils peuvent avoir, mais s'ils sont que des rois humains, ils sont vite venus, vite repartis. Et qu'est-ce que ça change? Je vous invite à regarder avec moi aujourd'hui combien c'est différent pour Jésus-Christ. Et on va lire donc dans Hébreux, au chapitre 1, les versets 1 jusqu'à 13. Si vous voulez suivre avec moi la lecture. Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est ainsi devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien plus remarquable encore que le leur. En effet, auquel des anges Dieu a-t-il déjà dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Et encore, « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils ». Par contre, lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, il dit « Que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui ». De plus, au sujet des anges, il dit « Il fait de ses anges, des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il dit au Fils, « Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Tu as aimé la justice et tu as détesté la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a désigné par onction comme roi, de préférence à tes compagnons, avec une huile de joie. Et c'est toi, Seigneur, qui, au commencement, a fondé la terre, et le ciel est l'œuvre de tes mains. Eux, ils disparaîtront, tandis que toi, tu restes là. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les enrôleras comme un manteau. Ils seront remplacés. Mais toi, tu es toujours le même, et ton existence n'aura pas de fin. Enfin, auquel des anges a-t-il déjà dit « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis » ton marchepied. » Jusqu'ici, lecture de la parole. Il y a trois choses que je voudrais voir avec vous, comment Jésus a été déclaré institué roi. Et c'est important pour nous de voir qu'il a toute la légitimité pour être roi. Et puis on va regarder deux aspects de son règne. Un roi, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit exercer la justice et il doit combattre les ennemis et vaincre les ennemis. Donc c'est les trois choses que j'aimerais regarder un petit peu avec vous plus en détail à partir de ce passage. Voyez, c'est assez interpellant comme première remarque déjà de voir qu'il y a plein de citations de l'Ancien Testament, des psaumes, du livre de Samuel, et toutes sont appliquées à Jésus-Christ. Et en fait, à personne d'autre, elles pouvaient s'appliquer aussi fidèlement, aussi pleinement qu'à Jésus. Mais c'est intéressant de voir comment l'auteur de la lettre aux Hébreux, il n'est pas en train de dire, voilà, David a dit, ou Samuel a écrit. Mais il dit, Dieu a dit, tout en citant exactement les versets de ces psaumes et de ces passages. Donc c'est Dieu lui-même qui est l'auteur, n'est-ce pas, de la Bible, juste pour qu'on se rappelle ça. L'autorité de cette parole, elle vient de Dieu lui-même. Et Dieu, dans toute son autorité, est en train de dire, voilà, j'ai un héritier légitime, j'ai un fils digne de moi, et c'est moi qui l'a établi pour être votre roi, pour être dans cet office de médiateur, celui qui va régner sur mon peuple, qui va être l'intermédiaire, qui va appliquer ma volonté, qui va faire en sorte que tout ce que je désire et souhaite pour mon peuple s'accomplisse réellement. Je ne sais pas si vous receviez la visite d'un ange aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez? Quand on regarde ceux qui ont eu de telles visites dans la Bible, ils étaient plutôt estomaqués, surpris, sur les genoux, tout émerveillés. Si vous receviez la visite d'un ange aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez? Quel privilège! Et vous seriez le premier, j'imagine, à aller l'annoncer. Regarde, qu'est-ce qui m'est arrivé? Et vous prendriez cet événement très au sérieux, n'est-ce pas? en disant « C'est extraordinaire ce qui m'arrive. » Mais regardez ici, Jésus est bien supérieur aux anges et c'est lui que Dieu nous a envoyé. Nous avons en Jésus quelqu'un qui est d'une majesté et d'une gloire encore supérieure à tous les anges. Et non seulement il n'est pas venu simplement pour nous rendre visite, mais il est venu pour établir sa demeure parmi son peuple, pour régner au-dessus de son peuple de façon éternelle. Une visite d'ange, ce serait vite passé dans un sens. Mais ce que la Bible nous dit ici, c'est que nous avons un roi qui siège à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Et par ce roi, nous avons nous-mêmes accès à cette majesté divine. Regardez la dignité de ce roi choisi par Dieu. Même les anges adorent et dépendent de Jésus, leur roi. Auquel des anges Dieu a-t-il déjà dit « Tu es mon fils ?» La réponse, c'est aucun de ces anges, aucune de ces créatures n'a ce privilège-là. Et quand il introduit, verset 6, le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. Au verset 4, on lit « Il est ainsi devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien plus remarquable encore que le leur. » Et ce n'est pas dans le nom en lui-même qu'il faut chercher la puissance. Le nom désigne la personne, la personnalité qui est derrière. C'est l'essence même de Jésus, de qui il est, qui est désigné par ce nom. Et quand on réfléchit à son nom, Jésus, Dieu sauve, on est encouragé de voir que c'est lui que Dieu a choisi pour être notre roi. Jésus a un nom supérieur ou meilleur, plus grand en gloire et en qualité que toutes les autres choses qui peuvent exister dans ce monde et qui ont toutes été créées. Mais pour ce qui concerne Jésus, lui, il est éternellement le Fils de Dieu. Il a été au commencement, c'est lui qui a participé à la création du monde, il est co-créateur avec Dieu, on voit ça au verset 2. Il est, verset 3, le reflet, l'expression même de la personne de Dieu. Il y a une telle proximité entre Dieu le Père, Dieu le Fils, que quand on voit le Fils, on voit le Père. Et donc, ils sont absolument égaux dans ce sens-là. On lit au verset 10 que c'est ce même Seigneur, Jésus, qui au commencement a fondé la terre, le ciel et tout ce qui existe est l'œuvre de ses mains. Et si ces choses-là vont disparaître un jour et être remplacées, lui, il demeure pour toujours. Il reste le même. Il ne change pas. Il n'aura pas de fin. Alors, quand on lit que la citation donc au verset 5, « Tu es mon fils, dit Dieu, je t'ai engendré aujourd'hui », on comprend que c'est une expression poétique. C'est une citation d'un psaume. Les psaumes sont des poèmes, en fait, qui ont été composés par divers auteurs, une grande partie par David. Et cette expression poétique décrit la relation unique du fils avec le Dieu Tout-Puissant. Ça ne signifie pas que le Fils, à un moment, n'était pas là et que d'un coup, il est venu à l'existence. Il était de toujours le Fils. De toujours, il a régné sur la création. Mais il y a un moment spécifique dans l'histoire où son règne éternel, incontestable, absolu sur toute chose, a rejoint le règne sur un peuple qu'il s'est choisi. Et ce moment-là, c'est le moment de la résurrection. Au moment où le Fils ressuscite des morts, où Jésus-Christ ressuscite des morts, on lit qu'il a été installé dans son siège royal et que son règne, qui était déjà absolu avant, a été rendu manifeste à l'ensemble de la création. On peut lire par exemple dans Actes au chapitre 2, l'apôtre Pierre qui est en train d'expliquer ça à la Pentecôte. Acte 2, verset 32, « C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a déversé, comme vous le voyez et l'entendez maintenant. » David, en effet, n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie, ce Jésus que vous avez crucifié. Donc c'est devenu net, évident, clair. Le royaume de Dieu a été inauguré, instauré au moment de la résurrection de Jésus. Dans la lettre de Paul aux Romains, on lit aussi la même chose au tout début, dans le chapitre 1. Donc Paul dit au verset 3 que l'évangile concerne le Fils qui, en tant qu'homme, est né de la descendance de David. Donc humainement, il avait toute la légitimité pour être le roi, le descendant de David, selon la promesse de Dieu. Et qui, verset 4, du point de vue de l'Esprit Saint, a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection. Et donc ça parle de Jésus-Christ, notre Seigneur. De même, on lit, verset 6, pour revenir dans la lettre aux Hébreux, qu'il a été introduit comme le premier-né dans le monde. Il y a une méprise parfois, assez courante d'ailleurs chez les témoins de Jéhovah, alors peut-être vous avez déjà entendu ça chez eux. Ils pensent que premier-né, ça veut dire celui qui est né le premier, comme si Jésus avait été la première créature par laquelle Dieu aurait fait toutes les autres choses créées. Mais en fait, premier-né, ça ne veut pas dire né le premier. Il y a des premiers-nés qui n'étaient pas nés les premiers, mais qui se sont retrouvés dans la charge du premier-né. Si vous venez d'une culture africaine ou orientale, ça va vous parler. Celui qui est, en réalité, en général, c'est vrai, dans les familles humaines, né le premier, il est censé avoir une responsabilité vis-à-vis de tous ses frères et sœurs. Et si le papa décède ou si les parents ont un problème, c'est lui qui doit prendre en charge le reste de la famille, qui doit veiller à subvenir aux besoins de tous les autres. Et donc il ne s'agit pas d'une expression pour désigner une sorte de chronologie, mais plutôt d'une expression qui désigne un rang dans la famille. Le premier-né, l'aîné, il a une autorité et un rôle particulier. Et c'est la même chose ici dans la Bible, et c'est ce même rang qui est attribué à Jésus comme l'aîné, le responsable de tous ses frères humains. C'est dans un sens le roi, celui qui va régner et faire du bien, qui a la responsabilité de subvenir aux besoins de tous ses frères, de tous ses sœurs, de tout son peuple. Voilà comment Jésus a été institué fils de Dieu, roi sur tout le peuple de Dieu. Son trône, verset 7, est éternel. Vous savez comment les rois de France ont été sacrés rois? Alors, j'ai fait des recherches, hein, mais peut-être ça va vous intéresser. C'est assez marrant parce que tout remonte à Clovis. Clovis, dans notre histoire collective, c'est censé être le premier roi des Francs. Et au moment où Clovis donc, se serait converti au christianisme, à Noël 498, et qu'il a été baptisé donc dans la cathédrale à Reims, il y aurait eu d'un coup une huile, le Saint-Crème, qui serait apparue miraculeusement pour le loindre à cette occasion-là. Et puis on a conservé cette huile, ce Saint-Crème, si vous avez déjà entendu l'expression. Et donc tous les rois de France ont été baptisés à Reims pour montrer leur filiation dans un sens avec ce Clovis-là, le premier roi authentifié des Francs. Et prestige oblige, c'est avec cette huile qu'on a sacré tous les rois de France après. Il fallait qu'ils puissent avoir une autorité légitime, qu'on puisse tracer leur lignée jusqu'à celui qui était reconnu sans conteste, le premier roi de France. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote aussi, les rois de France étaient les seuls souverains capables de faire des miracles. Alors au moment de leur sacre, il y avait cette onction leur conférait une capacité particulière de guérir certaines maladies. Et au cours de son sacre, il avait donc la capacité de dire à tous ceux qui défilaient malades devant lui, « Dieu te guérit, le roi te touche. » Seul roi en Occident qui avait le droit de faire ça. Au sacre de Louis XIV, de Louis XV ou de Louis XVI, il y avait plus de 2000 personnes malades qui sont venues le jour du sacre pour espérer une guérison. Ça, c'est les rois humains qui tirent leur légitimité d'autres êtres humains. Et de miracles, on n'en a pas forcément constaté énormément sur les 2000 à qui Louis XIV a pu dire « Dieu te guérit, le roi te touche ». Par contre, si on lit les évangiles, quel roi glorieux fait son entrée dans le monde ? Quel roi légitime est là en train de servir son peuple et de faire du bien à toute sa création ? L'implication très pratique, juste pour cette première partie, c'est que Jésus a droit à notre confiance absolue. C'est un droit, on peut contester. Vous savez, quand vous rentrez dans la classe, si le prof dit « on n'a pas le droit de manger du chewing-gum », si Jérémy rentre avec un chewing-gum, dans un sens, il peut, mais il s'expose du coup à certaines contraintes. À un moment, si en tout cas, il est vu par le prof et que ce prof tient à garder les règles dans sa classe. On peut contester, dans un sens, le règne, le droit de Jésus à être notre roi. Mais l'encouragement, c'est de ne pas le faire. Parce qu'il n'y a aucun doute que sa légitimité est assurée par Dieu lui-même. Nous avons un roi qui a autorité sur toute la création, même les anges. Il a droit aussi de nous dire, à nous, son peuple, encore à plus forte raison, et à toute l'humanité, comment nous devons vivre. Nous ne sommes pas entre les mains du premier venu. Nous sommes entre les mains du roi choisi par Dieu. Un roi parfait. Un roi qui est entièrement divin, mais aussi pleinement humain. Et le chapitre 12 de la lettre aux Hébreux nous appelle à avoir une haute vision de Jésus comme notre roi. Il dit ceci, verset 22. « Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion » et de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. On a accès à la capitale du royaume. On peut entrer en tant que citoyen dans le palais même royal, grâce à Jésus. On s'approche des dizaines de milliers d'anges. Là, en ce moment même, nous sommes en réunion, non seulement les 20, 30 que nous sommes ici dans ce local, mais avec des milliers d'anges, invisibles à nos yeux, mais qui sont là, en train aussi de se prosterner et d'adorer Jésus comme le roi. Vous êtes approchés de la Jérusalem céleste, de dizaines de milliers d'anges, de la réunion et de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Tout ce que Dieu a déjà sauvé. Vous êtes approchés de Dieu, juge de tous, des esprits des justes portés à leur accomplissement, de Jésus, le médiateur d'une alliance neuve et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Et petite parenthèse, je ne vais pas développer le sujet, mais c'est bon de savoir que notre roi, et aussi celui qui a été désigné comme notre grand prêtre, celui qui pouvait effacer nos fautes. On peut s'approcher avec respect, révérence, confiance, mais sans avoir besoin de craindre ce Dieu-là. C'est la première chose qui est importante pour nous de savoir ce matin. La deuxième chose, c'est, puisqu'on a un tel roi, on doit se poser la question, mais qu'est-ce qu'il fait ce roi ? Eh bien, le roi a deux choses qu'il fait. Il exerce la justice et il combat les ennemis. Je vous invite à regarder comment Jésus exerce la justice. Christ est un roi de justice. Regardez avec moi verset 8. Dieu dit au Fils, ton trône, ô Dieu. Voilà. Il désigne le Fils comme étant Dieu lui-même et éternel. Et le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Verset 9, tu as aimé la justice. Et tu as détesté la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a désigné par onction comme roi, de préférence à tes compagnons, avec une huile de joie. C'est une citation du psaume 45, versets 7 à 8. Dans les sacres royaux, il y a tout un déroulement de cérémonies. Au moment du sacre, le roi reçoit des insignes, des emblèmes de son règne. Parmi les emblèmes, les régalia des rois de France, il y a une couronne, bien sûr. On montre l'honneur, la dignité de la personne. Et puis, le roi recevait aussi une épée qui symbolisait la justice. Une épée qui était copiée sur le modèle de celle de Charlemagne. Donc toujours, on cherche une légitimité dans les sacres humains avec d'autres rois prestigieux qui ont précédé. Et puis, il recevait deux choses encore, enfin trois choses. Un sceptre, une sorte de bâton avec une fleur de lys, peut-être vous avez vu ça sur des tableaux. Un bâton qui représente son autorité, sa capacité à punir ceux qui s'opposent à ses règles et ses prescriptions et à son règne. Et un deuxième sceptre en forme de main avec trois doigts ouverts, et donc qui est le symbole de ce roi qui est prêt aussi et capable de récompenser ceux qui agissent conformément à la justice et au bien. Et la troisième chose que encore le roi recevait, c'était un anneau d'or qui symbolisait comme le mariage du roi avec son royaume, l'engagement de fidélité du roi vis-à-vis de son peuple et de son royaume. Alors on peut dire, oui, c'est normal, Jésus, il était Dieu. Donc en tant que Dieu, il avait la justice, parce que c'est un attribut de Dieu. Mais il ne faut pas qu'on oublie que Jésus n'était pas simplement Dieu, le Fils, mais qu'il a aussi revêtu notre humanité. Et dans son humanité, en tant que médiateur, en tant que notre représentant, on lit donc ce qu'on vient de lire, verset 9, qu'il a aimé la justice et il a détesté la méchanceté. Donc c'est pas juste que Jésus avait reçu la justice de Dieu, mais il a aimé la justice, il a mis en œuvre la justice dans sa vie. C'est d'ailleurs notre espérance. Nous recevons par la foi sa justice parfaitement accomplie. Parce qu'il a tellement aimé, il a tellement désiré, il a mis toute sa volonté pour faire ce qui était bon et juste. Et il a tenu jusqu'au bout, même face à la mort. En aucun point il n'a péché, en rien il n'a cédé à l'injustice. Il a détesté la méchanceté. Est-ce que ce n'est pas une bonne chose? Savoir que le médiateur qui est entre nous et Dieu est aussi celui qui a tellement aimé la justice que il a accepté de laisser sa vie sur la croix. Dans un sens, c'est un scandale. Parce que lui, il était innocent. Il avait justement accompli toute justice. Dieu n'avait rien à lui reprocher. Il a accepté de faire ça pour que nous puissions être pardonnés. Lui, l'innocent, a bien voulu recevoir le châtiment. C'était aussi pour que justement justice soit faite. Pas pour qu'il y ait un Dieu qui puisse un jour devenir injuste en disant, sur les fautes d'un certain nombre de personnes, je vais fermer les yeux, je vais faire comme si rien ne s'était passé. Si Dieu faisait ça, il devenait injuste. Il fallait, puisqu'il y avait une transgression, que la justice appelait une condamnation sur ces transgressions. Mais notre roi, qui aimait tellement la justice, il a accepté de prendre ça sur lui-même. En tant que fils de l'homme alors, en tant que vrai homme, Jésus a conquis la justice. Et notre médiateur est digne de régner et d'exercer la justice encore aujourd'hui. Il est celui encore aujourd'hui, là, en ce moment même, qui règne sur son peuple par son esprit et qui veut et qui peut nous rendre capables de vivre selon sa justice. Comme roi de justice, et Paul l'a rappelé tout à l'heure, il règne sur un peuple appelé à être juste et dans un sens déjà déclaré juste. Si on a été déclaré juste, si c'est ça notre identité, on veut marcher dans cette nouvelle identité que Dieu nous a acquise. Jésus, c'est le lion de Juda, de Apocalypse 5, qui a vaincu, pas juste vaincu les ennemis extérieurs, mais qui a vaincu le péché, qui a resté ferme dans sa justice, dans sa soif de justice, et qui est digne du coup d'ouvrir le livre du dessein de Dieu, qui peut conduire le déroulement de l'histoire. Parce qu'il s'est laissé immoler aussi, comme un agneau. Il y a de nos jours un petit problème dans notre société, avec la montée un peu de l'individualisme, aussi de l'égalitarisme. Donc il faut que tout le monde soit sur le même piédestal, on va dire. Et de plus en plus, les inégalités sont mal perçues. Il y a des inégalités qui ne sont pas justes. Et c'est normal qu'on réagisse à ça et qu'on veuille qu'il y ait plus de partage. En même temps, il y a des inégalités qui sont justes. Il y en a. On ne peut pas tous être policiers. On ne peut pas tous aller demain matin à 8h au Palais de l'Élysée et signer les décrets et les papiers. Il y a certains qui reçoivent une dignité, une fonction qui est différente de celle des autres. Et la grande question, c'est comment est-ce qu'ils vont exercer leur autorité? Et là aussi, dans nos sociétés, il y a un malaise parce qu'on se dit, tous ceux qui auraient cette autorité ou à qui on a confié cette autorité, on dirait qu'ils ne l'utilisent pas pour notre bien. Et même s'ils cherchent à le faire, peut-être ils ont du mal à ce que ça arrive finalement jusqu'à nous, pour notre bien. Tout ça, ça crée une perte de confiance un peu dans l'autorité. Et puis, si vous rajoutez encore à tout ça, le fait qu'on parle beaucoup dans l'évangile que Jésus s'est humilié, et il dit lui-même, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. On a peut-être des fois l'impression que, alors, voilà, il ne faudrait pas trop qu'il y ait d'autorité au-dessus de nous. On va bien pouvoir se débrouiller ensemble les uns les autres. Quand Jésus dit qu'il est venu non pour être servi, mais pour servir, en fait, il parle d'un événement particulier, celui de la croix, dont on a déjà parlé. Mais si vous lisez les évangiles, il a exercé pleinement son autorité. Face à ses opposants, il répondait, il tenait ferme dans ses dispositions. Avec les disciples, il leur a commandé, il leur a ordonné de faire des choses. Et les disciples étaient appelés à répondre à ses ordres et à ses commandements. Il a même commandé au vent et à la tempête, il a commandé aux démons, il a commandé aux anges. Tout était clairement soumis à Jésus, même dans le temps de son humiliation terrestre. Je lis une petite citation de Blocher sur ça. Dans la perspective de l'évangile, l'amour libérateur qui caractérise le règne du Christ et l'a conduit à donner sa vie sans se défendre pour nous, pour nous racheter, n'est pas incompatible avec la puissance. Donc oui, Jésus s'est humilié, oui, Jésus n'a pas cherché à être élevé par les foules, mais il est resté puissant, il est resté le roi qu'il est encore aujourd'hui. Et cette puissance, c'est même celle de contraindre les rebelles. C'est pourquoi le Christ peut aussi user de celle-ci dans l'exercice de son ministère royal. Et Blocher finit en disant, seulement tout ce qu'il fait, avec cette puissance et cette autorité, il le fait pour le bien de ses sujets, auxquels il donne tout ce qu'il a. Il n'y a pas de problème d'avoir une bonne autorité, n'est-ce pas, au-dessus de nous, quand cette autorité est exercée avec justice. Quand celui qui est en autorité au-dessus de nous nous donne des choses qui sont pour notre bien. Quand toutes les décisions qu'il prend conduisent à notre bien. Plus loin dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 7, l'auteur compare Jésus avec un certain roi prêtre qui a précédé dans l'histoire, bien bien avant, au temps d'Abraham, un certain Melchisédek. Et il dit, chapitre 7, versets 1 à 4, « Ce Melchisédek était roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut. Il est allé à la rencontre d'Abraham, alors que celui-ci revenait de la défaite infligée au roi. Il l'a béni, et Abraham lui a donné la dîme de tout. » D'après la signification de son nom, Melchisédek est d'abord roi de justice. Ensuite, il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. On ne lui connaît ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie, mais rendu semblable au Fils de Dieu, il reste prêtre pour toujours. Remarquez quelle est la grandeur de ce personnage, puisque le patriarche Abraham lui a donné même le dixième de son butin. Donc Abraham, héritier de la promesse, s'est soumis, s'est prosterné devant Melchisédek, le roi de justice, le roi de paix, qui était une préfiguration de Jésus. Alors, si comme les Hébreux, on est en danger de céder à la tiédeur dans notre ardeur pour chercher la volonté de Dieu pour obéir, ou peut-être à la crainte, parce que peut-être ce Dieu-là n'est pas bon pour nous, pas suffisamment puissant, ou à l'incrédulité, on devrait revenir à ce passage glorieux de Hébreux chapitre 1 et nous rappeler, non, on a un roi légitime, infiniment glorieux et puissant. mais sa puissance, son autorité, il la met au service de la justice et de la paix pour son peuple. Il est puissant pour accomplir à mon égard, à ton égard, toutes les promesses qu'il a dites, pour dresser son trône de justice, non pas simplement dans le monde, comme si c'était extérieur à moi, mais aussi pour, en commençant par ma vie, dans mon cœur. Il est puissant, nous dit Éphésiens, pour faire au-delà même de tout ce qu'on peut imaginer et penser. Toute cette puissance, il la met en œuvre pour notre bien, pour exercer la justice, pour nous conduire dans la paix. Et le juste résultat de ça, à la fin du verset 9, c'est la joie. Quand on est dans un bon règne, quelqu'un qui prend des bonnes décisions systématiquement, avec la puissance d'avoir des effets de ces bonnes décisions, qui nous conduit dans la paix, on est dans la joie. Et l'apôtre Paul va décrire le royaume de Dieu comme un royaume de justice, de paix et de joie. Peut-être aussi ce matin, il y a certaines personnes qui sont un peu fatiguées. Abraham, en revenant d'avoir combattu les rois, si ça vous dit quelque chose dans Genèse, au moment où il rencontre Melchizedek, il est fatigué. Et sachez, alors peut-être ce matin, si c'est votre cas, que Dieu règne malgré tout. Il y a plusieurs jeunes familles, et je sais aussi que plusieurs ont passé des moments difficiles ces dernières semaines ou ces derniers mois. Mais Dieu règne. Dieu règne encore sur nos familles. Quand ils sont petits, bébés, quand ils sont ados, quand même on sera vieux et que ce sera eux qui prendront soin de nous, Dieu règne. Dieu règne et il prend soin de chacun. Il exerce son autorité avec justice pour la paix. Prosternons-nous devant lui, devant ce Dieu-là. Recevons sa bénédiction. Et en réponse, ne croyons pas que les choses nous appartiennent, mais au contraire, manifestons combien nous sommes dépendants de lui. Comme Abraham a donné la dîme à Melchizedek, il reconnaissait que ça ne lui appartenait pas, dans un sens. Et nous aussi, on reconnaît que notre vie ne nous appartient pas, mais on est content de se soumettre au règne de Dieu. Enfin, le roi, il est là pour combattre les ennemis. C'est lui qui a la stratégie pour la guerre. C'est lui qui donne les ordres aux armées. Et quand est-ce qu'il faut partir et quand est-ce qu'il faut revenir. Un bon roi, il est devant ses troupes, l'épée tendue en avant. Et faites ressortir toutes les images chevaleresques que vous pouvez avoir, si ça peut réchauffer un peu votre cœur par rapport à comment Jésus est en train de gérer les choses. S'il est en arrière en train de manger et de suivre d'un œil lointain ce qui se passe, c'est pas un bon roi. Est-ce que vous avez déjà vu les Chroniques de Narnia ? Peut-être vous les avez lues, peut-être vous les avez vues en film. C'est toujours un moment qui met un peu la chair de poule, n'est-ce pas, quand Aslan arrive. Parce que quand Aslan n'est pas là, il y a la bataille, mais c'est dur. Il y a des pertes. On voit les troupes qui sont en train de vaciller sous les assauts de l'ennemi. Mais si vous avez une image du dernier assaut final dans le premier épisode du film, hein, donc c'est sur cette plaine-là, puis il y a les deux qui foncent les uns contre les autres. Voilà. Et l'issue de la bataille est pas sûre jusqu'à ce que Aslan arrive avec les renforts. Et là, ça fait plus de doute, les ennemis sont totalement vaincus. Peut-être vous avez en tête le troisième épisode où à la fin, ils se retrouvent sur le ponton, les ennemis sont poursuivis et il y a Aslan de l'autre côté du pont. Et ça leur semble, aux ennemis, ça leur semble plus gérable de lui faire face et d'essayer de le supprimer pour passer. Il y a la petite fille, j'ai oublié son nom, qui se trouve là aussi avec sa petite dague sortie. Et qu'est-ce que Aslan fait ? Déjà, il est là. Enfin, il arrive. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il suffit d'un rugissement. Et il y a cette grande masse d'eau qui arrive et qui engloutit tous les ennemis. Qui fait un peu écho, n'est-ce pas, à Exode. Et les troupes du Pharaon qui ont été ensevelies aussi sous l'eau. On a un tel Aslan en Jésus. Quand il n'est pas là, c'est sûr, l'issue de la victoire n'est pas garantie, mais il est là. Et même quand on le cherche, la petite fille le cherche, et quand elle revient, il arrive toujours au bon moment. Et quand il arrive, il n'a qu'une parole à dire, et les ennemis sont complètement abattus. Jésus mène les combats pour nous, selon la volonté de Dieu. C'est le nouveau David, c'est le nouveau Josué qui conquiert les territoires et les ennemis pour nous, en notre faveur. C'est le mal dans le monde. Un jour, tout va lui être soumis, tous les ennemis de Dieu vont être soumis à Jésus. C'est le monde qui participe à la rébellion du diable. Jésus va exercer son autorité. Ce sera juste. Il ne va jamais dépasser le cadre de la justice. Ce sera dans le cadre de la volonté révélée de Dieu. Et Dieu a droit de dire ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et tous ceux qui auront décidé de faire ce qui n'est pas bon recevront le juste châtiment. Mais pour moi et pour nous ce matin, peut-être un encouragement, c'est que Dieu, en Jésus, par ce médiateur, par ce roi qu'il a choisi, est en train de mener une bataille en nous, pour nous libérer de plus en plus de nos ennemis. Et quand tu es assailli par les tentations, par le doute, par l'incrédulité, Jésus vient et combat, et donne des ordres en tant que roi à ses anges pour venir délivrer. Et pendant que je réfléchissais à ce message, je pensais à Daniel en prière. Et peut-être vous vous rappelez ce passage de Daniel où Daniel en prière, puis d'un coup, un ange arrive et lui dit « Ben voilà, j'étais retenu pour un temps, mais voilà, je suis là. Tout va aller bien maintenant. C'est réglé. » Au moment même où tu as commencé à prier, Daniel, Dieu a entendu ta prière et il m'a envoyé. Au moment même où toi, tu es face aux difficultés, prie et regarde à ce roi qui est capable de vaincre et de combattre les ennemis. Et avec lui, va derrière lui, mais il est là pour mener la bataille. Et l'issue ne fait aucun doute. Verset 13. Dieu, auquel des anges Dieu a-t-il déjà dit « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied. » Les ennemis de Jésus, ce sont nos ennemis, si nous lui appartenons, si nous avons mis notre confiance en lui, si nous sommes partis de son peuple. Alors, l'issue est certaine. Dieu dit à Jésus qu'il va mettre tous ses ennemis soumis à lui, comme un marchepied. Ils ne seront plus rien. Christ est assis à la droite de Dieu. C'est la certitude non seulement du fait qu'il est Dieu, mais aussi la garantie de son triomphe final. Jésus a dit à ceux qui l'accusaient qu'il le verrait assis à la droite de la puissance de Dieu. Jésus a la puissance pour nous arracher à notre ennemi le plus dangereux. Jésus a le pouvoir de nous arracher à la mort spirituelle. Alors je termine avec ce verset du chapitre 12 que Chantal a bien voulu illustrer pour nous et que vous pouvez admirer là au fond de la pièce. Et peut-être dans ces prochains jours, on peut continuer de réfléchir à ce qu'on a entendu aujourd'hui. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enlace si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Et franchement, si le verset s'arrêtait ici, on serait un petit peu en peine, mais la suite est hyper importante. Comment est-ce qu'on va courir avec persévérance? Dans une épreuve difficile, avec le péché qui essaie de nous agripper sans cesse. On va le faire, verset 2, les yeux fixés sur Jésus, le roi, avec son épée dégainée, le lion de Juda qui a vaincu, qui nous garantit la victoire finale. Les yeux fixés sur Jésus qui est le pionnier de la foi et qui la porte à son accomplissement, qui a aimé la justice et détesté la méchanceté, qui nous a acquis cette justice, qui est capable de nous porter dans cette justice pour la gloire de Dieu. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix, méprisant la honte, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Son combat n'a pas été simple. Il a dû endurer la croix. Alors verset 3, « Considérez en effet celui qui a enduré une telle opposition de la part des pécheurs pour que vous ne vous lassiez pas par découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché. » Oui, c'est en ce moment le temps du combat contre le péché. Mais nous avons pour regarder à Jésus qui a enduré ce combat, qui l'a gagné pour nous. et qui nous encourage à mettre aussi toutes nos forces dans la bataille. Parce que l'issue, c'est de régner un jour avec lui, de pouvoir le contempler sur son trône et d'être nous-mêmes en train de régner sur la nouvelle création. Que Dieu nous garde, que Dieu nous encourage, que Dieu porte chacun d'entre nous cette semaine avec ses pensées. Amen.